Ibrahim Hassan Mayaki, bonjour.
Bonjour.
L'Italie qui a refusé le bateau Aquarius, la France qui l'a ignoré, vous en pensez quoi ?
Ce que je pense, c'est qu'il est important que l'Europe mette de l'ordre dans sa maison, dans le sens très positif du terme, pour que l'Afrique puisse entamer un dialogue avec l'Europe de manière cohérente. Et je pense qu'il faut qu'on déplace aussi le curseur des questions purement liées à la migration à des questions de co-développement entre l'Europe et l'Afrique.
Et il faut peut-être que l'Europe change son regard sur l'Afrique ?
Oui, l'Europe doit absolument changer son regard sur l'Afrique. Il ne faut pas oublier que le Fonds des Nations Unies pour la population nous dit que d'ici une trentaine d'années, d'ici 2050, 30% des naissances dans le monde seront en Afrique. Si on regarde l'âge moyen médian de l'Afrique qui est 19 ans et l'âge médian de l'Europe qui est de 47 ans, c'est un défi et en même temps c'est une opportunité. Alors plus tôt le débat s'installe sur des questions de fond et plus il sera facile de régler des questions comme celle de l'Aquarius évidemment.
Y a-t-il une classe moyenne en Afrique ? Y a-t-il un marché pour l'Europe ?
Alors, il y a une classe moyenne qui est évaluée à peu près 400 millions, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une population de 1 milliard qui va doubler d'ici 2050, la part de la classe moyenne va substantiellement s'agrandir et cette part de la classe moyenne va constituer un marché. C'est vrai que les Africains, dans la définition de la zone de libre-échange continentale, vont s'appuyer sur leurs marchés régionaux afin de booster leur compétitivité à travers une industrialisation accrue, mais la complémentarité économique à établir avec l'Europe sera évidente et c'est un marché potentiellement proche de l'Europe et on est dans un win-win gagnant-gagnant comme disent les anglo-saxons. Mais attention à ne pas prendre les raisonnements sous des angles populistes qui ne feront que aller vers de mauvaises solutions.
Ça alors, c'est pour l'Italie et la France qui refusent l'Aquarius.
Je ne vais pas qualifier de pays en particulier, mais il est évident que le populisme ne mène pas de bonnes solutions.
Alors, dans votre dernier ouvrage, « L'Afrique à l'heure des choix », que vous venez de publier chez Armand Collin, vous écrivez que si l'Afrique ne se développe pas assez vite, ce n'est ni par manque d'argent, ni par manque de bonne volonté, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de pays dont les institutions sont à la hauteur de ces défis. À quelles institutions pensez-vous ?
Oui, la plupart des pays africains qui ont des institutions de qualité ont des niveaux de développement assez élevés. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez la République centrafricaine et vous prenez le Botswana. Sensiblement la même taille, la même population. Sensiblement la même densité de ressources naturelles, minérales. À leur indépendance, ces deux pays avaient des revenus per capita aux alentours de $400. Et aujourd'hui, le Botswana a multiplié son revenu per capita par 20.
Par habitant.
Par habitant, $8,000. Et la Centrafrique l'a divisé par 2. Donc si vous regardez la qualité institutionnelle du Botswana, le fait que l'accès à la santé et à l'éducation soit gratuit, le fait qu'ils aient su gérer la manne diamantifère en produisant des politiques publiques qui soient appropriées, a fait la différence avec la République centrafricaine. Vous avez toute une histoire de coup d'État, de rébellion, etc. Donc, vous voyez que les institutions, évidemment, jouent un rôle. Heureusement, nous avons plus de pays qui ressemblent au Botswana et c'est le chemin vers lequel il faut aller. Je crois que la classe dirigeante centrafricaine est tout à fait consciente de ce fait-là.
Parmi les transitions politiques les plus récentes, Burkina Faso, Angola, Zimbabwe, peut-être l'Éthiopie. Quelle est celle qui vous paraît la plus porteuse d'espoir en termes de développement ?
Je crois que toutes ont un point en commun. Ça dénote une accélération du changement. Notre société civile, notre secteur privé a une vitesse de raisonnement et de compréhension qui est plus importante que la vitesse des États. Et je crois qu'il n'y aura pas de transformation structurelle sans un minimum de consensus. Et ça, c'est ce que tous les dirigeants de ces pays en transition essayent de pousser.
La différence, peut-être, c'est qu'au Burkina Faso, il y a eu une alternance. En Angola, il y a une transition sans alternance. Quel est le modèle qui vous paraît le plus propice ?
Je crois que si vous regardez l'Angola, on peut appeler ça une alternance. Les changements qui sont en train d'être effectués par le président Lourenço démontrent des fois qu'il y a plus de changements que lors d'une alternance normale. Donc on peut appeler ça tout à fait une alternance.
Et vous pensez à la lutte contre la corruption ?
Non seulement la lutte contre la corruption, mais aussi la lutte contre les inégalités. Et je crois que le fait de mettre l'accent sur la réduction des inégalités est une source source de croissance.
Dans votre livre, vous évoquez notamment la question de ce que vous appelez la démographie incontrôlée. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase d'Emmanuel Macron? C'était l'an dernier, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, et il pensait notamment à votre pays, le Niger, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien.
Alors, point 1, on n'a pas finalisé notre transition démographique, et il faudra attendre en 2050 et 2060. Point 2, nos taux de croissance démographique font qu'on double de population dans des délais très restreints, 20 à 30 ans. Cela n'est évidemment pas soutenable. Donc, on ne pourra pas se permettre de ne pas utiliser des techniques de planning familial. Vous savez, on dit souvent, oui, la religion, par exemple, peut être un obstacle. Oui, mais un des pays au monde qui a réussi la gestion de sa démographie et qui a utilisé pleinement toutes les techniques de planification familiale, c'est la République islamique d'Iran. Donc, la religion n'est pas un obstacle.
Une question de volonté politique ?
Absolument. Il y a une question non seulement de volonté politique, mais aussi de courage politique. Mais seulement, on ne peut pas non plus résumer l'ensemble de nos problèmes à une question démographique.
Une question sur la monnaie. Pensez-vous, comme votre collègue économiste de l'Union africaine, Carlos Lopez, que le franc CFA est un mécanisme désuet à revoir ?
Comme Carlos Lopez, je pense que le franc CFA disparaîtra. À quelle échéance, je ne sais pas. Mais vous savez qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a un processus qui est en cours, qui est appuyé par l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest afin d'aller vers une zone monétaire commune. Il faudra voir comment fusionner les différentes zones monétaires qui y sont. Il faudra voir comment avoir des critères de stabilité économique communs. Il faudra voir comment créer un espace économique qui soit beaucoup plus intégré. Ça prendra du temps, mais on y arrivera.
D'ici combien de temps? Le franc CFA a combien d'années de survie, à votre avis?
Je ne pourrais pas faire une prédiction, mais je pense que si on regarde les objectifs qui sont fixés au niveau de la CEDEAO sur la constitution de la zone monétaire commune, ça prendra au moins une dizaine d'années.
Ibrahim Hassan Mayaki, avec votre nouveau livre « L'Afrique à l'heure des choix », vous allez sur le terrain politique et plus que vous ne le faisiez jusqu'à présent. Est-ce que vous voulez sortir de votre image d'économiste?
D'abord, je ne suis pas un économiste. Je m'aventure dans le champ économique. Deuxièmement, je n'ai pas non plus d'ambition politique particulière. Je suis très heureux de participer à cette construction de l'intégration régionale en étant secrétaire exécutif du NEPAD. Je crois qu'il y a là un champ d'action à réaliser qui est considérable, notamment à travers des projets régionaux d'infrastructure, que ce soit en énergie, en transport, en rail, en fibre optique, à travers la constitution de marchés régionaux, à travers la mise en œuvre du marché de transport, le marché unique de transport aérien. Il y a énormément de choses à faire sur le plan régional et c'est ce qui m'intéresse pour le moment de manière totale et absolue.
Alors vous n'avez pas d'ambition politique particulière, mais vous avez tout de même été le Premier ministre du Niger pendant 3 ans, de 1997 à 2000. La présidentielle de 2021, vous y pensez?
Absolument pas. Je n'y pense pas et je ne cherche même pas à y penser. Je pense à autre chose. Voilà.
Mais vous dites vous-même que dans la vie, il faut du courage politique.
Oui, il faut du courage politique quand on a l'envie. Le courage, ça va aussi avec l'envie. Si on a l'envie sans le courage, ça ne marche pas. Et si on s'invente un courage sans avoir l'envie, ça ne marche pas non plus. Donc, je suis très bien dans ce que je fais. Mais, évidemment, cela ne veut pas dire que je suis insensible aux dynamiques politiques nigériennes. Et là aussi, je pense que les élections à venir seront extrêmement importantes parce qu'elles vont correspondre à la fin du deuxième mandat du président Issoufou et ce sera une étape charnière.
Oui, d'autant que le 4 juin dernier à Paris, le président Issoufou l'a dit, l'a redit, en 2021, je m'en irai. Donc le jeu sera très ouvert.
Oui, il a toujours dit. Mais quand vous dites que le jeu est très ouvert, je veux repréciser encore que je ne suis absolument pas dans cette logique. Je peux appuyer, évidemment, mais je ne suis pas dans une logique personnelle parce que ce sont des choses qui sont derrière moi.
Ibrahim Hassan Mayaki, merci.